Prions Dieu. Père, nous venons devant toi, notre grand Dieu et notre roi éternel, reconnaissant que nous sommes pécheurs, non seulement en ce que nous avons péché, mais aussi que nous commettons le péché. Et ta parole est claire. Et si nous nions avoir péché, on peut dire comme l'apôtre Jean, nous faisons de toi un menteur. Notre péché est toujours devant nous, et comme la prière du roi David, nous voulons d'abord confesser nos péchés, sachant que tu es fidèle à nous pardonner et que tu apportes ta justice pour nous purifier de nos péchés de tous les jours. Père, on te remercie pour les gloires de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en particulier la communion dont nous jouissons avec toi et ton Fils Jésus. Nos bouches ne peuvent pas trouver suffisamment de louanges pour te bénir. Ce que tu as fait pour nous dépasse toutes les distinctions humaines. Et nos pauvres esprits ne peuvent pas sonder l'immensité de ta grâce, mais nous savons que tu es beaucoup plus digne de ce que le langage humain pourrait jamais exprimer. Et nous avons confiance que tu reçois les simples remerciements de tes enfants. Merci, Père, pour les miséricordes quotidiennes. Tu nous combles avec le confort et les bénédictions de la vie, la joie de la famille et des amis, l'amour de l'Église et plusieurs autres bonnes choses que tu nous donnes richement à apprécier. Et Seigneur, nous te remercions spécialement pour les Saintes Écritures, la parole de vie. Comment pourrions-nous vivre sans ta vérité? Elle nous conduit à la repentance quand nous péchons. Elle nous donne des promesses pour la vie et elle encourage notre cœur à aimer et à poursuivre la sainteté. Seigneur, nous sommes dans l'attente pour aller au ciel où nous serons enfin parfaits. Mais pour l'instant, nous vivons dans un monde où nous sommes encore assaillis par le péché, l'échec et la faiblesse. Et on confesse que nous trébuchons et tombons souvent. Nous avons désespérément besoin de ton pardon constant et de ta grâce. Donne-nous une faim plus profonde pour la justice. Que ta parole domine nos pensées. Purifie nos cœurs, nos consciences et contrôle notre vie afin que les gloires du Christ et la puissance transformatrice de l'Évangile soient clairement exposées en nous. Seigneur, nous nous accrochons au Christ, au nom duquel nous te prions. Honneur et gloire à ton précieux nom. Amen. Il y a quelques mois passés, le conseil de l'Église me demandait de préparer un enseignement qui concerne notre confession de foi. Est-ce qu'il y en a qui connaissent notre confession de foi? Pas grand main qui se lève, là. Hein? C'est quoi une confession de foi? Ce que nous croyons. C'est vrai. C'est vrai. Mais une confession de foi ou une profession de foi, c'est plutôt personnel pour moi. Confession de foi, c'est l'ensemble soit d'une association ou d'une église. C'est la déclaration ouverte. Hein, on la cache pas, c'est pas secret. C'est une déclaration qui est ouverte d'une croyance ou d'une foi. Et je vais vous donner, en débutant, un peu... Chez les premiers chrétiens, chez les catholiques romains, puis ensuite chez les protestants. Et chez les protestants, bien, il y a les protestants réformés, autrement dit, des années 1400-1500, et ensuite les protestants évangéliques, ce que nous sommes, des protestants évangéliques. Donc, chez les premiers chrétiens, le christianisme connaît plusieurs confessions de foi. Et la profession de foi est individuelle. Chacun amène sa confession de foi et elle détermine qui est un chrétien et qui ne l'est pas. Et pour les premiers chrétiens, la première profession de foi ça s'appelait le kérigme, ou on pourrait dire profession de foi des premiers chrétiens. OK? Donc, les professions de foi actuelles ou symboles appelées le credo, et on avait un exemple, nous on a été élevés avec le « Je crois en Dieu », qui est un credo, qui est une confession de foi de ce que en quoi nous croyons. Et il y en avait, au début, il y en avait deux, le symbole des apôtres, et ensuite le symbole de Nicée-Constantinople. On sait que Constantinople, ça a été un des c'est lui qui était un roi, pas Constantinople, c'est lui, Constantin. Et puis, cette version-là du credo, elle existe en deux versions. Maintenant, je ne rentrerai pas dans le détail. Chez les catholiques romains, après quand Constantin a universalisé la chrétienté, autrement dit, toutes les conquêtes qu'il faisait, le monde devenait automatiquement des catholiques ou des chrétiens pour eux autres. Qu'est-ce que le catholicisme fait? C'est qu'il fusionne confession de foi et profession de foi, selon son principe que la doctrine fait le chrétien. Et la confession de foi est faite par les chrétiens au moment de leur baptême, imaginez-vous. Ils sont là de même. Et c'est quelqu'un d'autre qui le répète pour eux. Ou ben non, à chaque messe, il y a ce qu'on appelle le « Je crois en Dieu ». La profession de foi est une cérémonie catholique, anciennement appelée la communion solennelle. Y en a-tu qui se rappellent de ça? Hein, la communion solennelle, par laquelle le jeune fidèle, il renouvelle les engagements pris lors de son baptême. Ce n'est pas lui qui les a pris, mais c'est quelqu'un d'autre qui les a pris pour lui. Arrivons maintenant au protestantisme. Oui, on va commencer par le protestantisme européen, qui, ces gens-là écrivent régulièrement des confessions de foi. Il y en a plusieurs. Allez sur votre ordinateur puis faites juste dire « confession de foi » puis vous allez voir qu'il y en a. Il y en a des bonnes, puis il y en a des moins bonnes. Et ces confessions de foi précisent les dates et la portée. La profession de foi de 1649, ou en tout cas. Ces professions de foi-là s'inscrivent généralement dans la lignée du symbole des apôtres, c'est-à-dire qu'ils sont... Il couvre les points du symbole des apôtres et ce qu'on appelle aussi des symboles écuméniques, comme le symbole de Nicée ou le symbole d'Anatase. Et parmi ces confessions de foi-là, réformées qu'on appelle, on a la confession de foi de La Rochelle, la confession de foi de 1873 qui ouvre un schisme, une séparation entre les libéraux et les orthodoxes dans les églises réformées en France. Ce n'est pas une période qu'on doit être fier. Et il y a aussi la déclaration de foi de l'Église réformée de France de 1936, sur laquelle les réformés français ont en partie restauré leur unité en 1938. Chez les protestants, la confirmation désigne la cérémonie qui conclut l'éducation religieuse du catéchumène. Catéchumène, c'est la personne qui étudie, okay, du jeune. Okay? Il y avait les prosélytes dans le temps des Juifs. Et en général, ce sont des adolescents de 14-15 ans. Et son principe est voisin à celui de la profession de foi des catholiques. Et elle confirme, comme son nom l'indique, les vœux du baptême et elle marque l'admission du confirmant à la scène et son passage à une vie de foi adulte. Donc, à partir de ce temps-là, lorsqu'on fait notre profession de foi, on avait le droit de prendre la communion et on avait le droit de... On devenait comme des jeunes adultes. Là, on va parler du christianisme évangélique, ce que nous croyons. La confession de foi, pour nous, c'est un témoignage de conversion personnelle. n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait le choix pour nous, c'est nous qui, à un moment donné, avons reçu la grâce de Dieu, la révélation de Dieu, et c'est notre témoignage, un témoignage de conversion personnelle. Avant d'être baptisé, OK? Fait que c'est contraire à ce que je viens de vous dire. Et ce rite-là est réservé seulement à des adolescents et aux adultes parce qu'on sait que les enfants, habituellement, il faudrait attendre. Il y en a qui ont fait baptiser des enfants jeunes, c'est correct. Mais souvent, des fois, ils sont déçus lorsqu'ils arrivent à 16-17 ans où ils prennent une autre direction. Ça, c'est ce que nous, les évangéliques, on croit être une confession ou une profession de foi. Maintenant, précisément, nous, l'Église, ici, nous avons une confession de foi basée sur l'association à laquelle nous appartenons, l'AGC ou l'AEEQC, l'Association des Églises évangéliques. Notre association, voyons, on va-tu le dire, a une confession de foi. Et nous, nous adoptons, nous signons comme quoi nous adhérons à cette confession de foi-là. L'Église chrétienne évangélique d'Hawkesbury fonde ses croyances dans la foi chrétienne à travers les enseignements de la Bible. Et notre confession de foi présente les aspects essentiels et les fondamentaux de notre compréhension du christianisme. C'est important, une confession de foi. C'est ce que nous croyons. Si quelqu'un me dit, c'est quoi, en quoi tu crois? Je peux me référer à dire, oui, je crois en la Bible, mais c'est quoi tu crois? Et la confession de foi, c'est un résumé. C'est pas la Bible au complet. Mais c'est des textes qui supportent ce que nous croyons. La Bible, premièrement, et vous avez tous, à la fin, mais que j'ai fini, probablement, ça va prendre 3 prédications là-dessus. Vous allez recevoir la confession de foi complète. Mais là, vous avez la partie qu'on va parler ce matin. Vous avez reçu ça dans vos feuillets. S'il y en a qui ont reçu le feuillet, levez la main. On va aller, Richard va aller vous en porter un. Mais c'est important que vous l'ayez et que vous puissiez suivre. La Bible, les Saintes Écritures, la parole de Dieu, celle qui a été interdite à nos ancêtres parce qu'on croyait qu'on n'était pas assez intelligent pour la lire. Seul le pape doit interpréter. Nous croyons que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament est la parole de Dieu complète, excluant les livres apocryphes que l'Église romaine inclut dans ses Bibles, comme la Bible Jérusalem, la Tob, ces choses-là. Nous ne reconnaissons pas ces livres-là. Et le canon qui a été, le canon, c'est la règle. Hein? Ça, c'est ces gens-là, à cette époque-là, qui ont déterminé quels seraient les livres inspirés du Nouveau Testament. Et les Juifs ont fait la même chose pour l'Ancien Testament, parce que là aussi, il y a des lectures apocryphes. Donc, excluant les lectures apocryphes, nous croyons que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu complète. On ne peut pas ajouter absolument rien. Et ceux qui disent, je pense toujours à Suzanne, qui ont des nouvelles prophéties, ils ont besoin de dire que ça a besoin d'être écrit dans la Bible. Hein? Il n'y en a pas de nouvelles prophéties. Et telles qu'elles ont été écrites à l'origine, des paroles, les Écritures furent inspirées verbalement. Elles sont libres d'erreurs et entièrement dignes de confiance. tu ne te trompes pas avec les Saintes Écritures. Les gens qui ont écrit la parole de Dieu, oui, c'était des hommes comme nous. Ils ont écrit, et la manière de le dire, c'est que la parole leur a été soufflée par l'Esprit-Saint. Et ils ont écrit selon l'époque, selon les temps, la parole de Dieu. Pour nous, la Bible constitue l'autorité suprême en matière de foi, en matière d'enseignement et de bonne conduite. Jésus-Christ est le centre et l'accomplissement de la parole de Dieu, de la Bible. Amen. Maintenant, c'est bien beau dire ça, mais comment est-ce qu'on supporte cela avec les Écritures? Parce que ce que je viens de dire là, c'est des hommes qui ont écrit ça, hein? C'est un homme qui a écrit ça. Maintenant, il faut que je prouve ça avec les Saintes Écritures. Et dans votre feuillet, je n'ai pas l'Écriture au complet, mais quand même, j'ai ce qu'on appelle, les versets que vous pouvez aller voir. Mais on va regarder quelques-uns. Matthieu 5, 17. Hein, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Quand Jésus est venu, il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. La parole de Dieu, les prophéties ont été accomplies en Jésus-Christ. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Luc 24, verset 27. Vous vous rappelez, hein, les témoins de... Pas les témoins de Jéhovah, mais je veux dire les disciples d'Emmaüs. Hein? Jésus leur raconte, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Imaginez-vous, le Nouveau Testament n'est pas écrit dans ce temps-là, là. Il y a seulement l'Ancien. Et à travers l'Ancien Testament, Jésus décrit à ses deux disciples-là tout ce qui devait, tout ce qu'il concernait. 2 Timothée 3,16, ça c'est mon passage préféré. Hein? Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas juste les mots en rouge dans votre Bible. Ce n'est pas juste une partie que vous acceptez, puis le reste, vous ne l'aimez pas. C'est toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Pour quoi faire? Bien, on le sait, on a des frères qui enseignent. Hein, pour convaincre, quand on veut parler à quelqu'un, puis de convaincre comme quoi que la parole de Dieu, c'est bien la parole de Dieu. Pour corriger lorsque quelqu'un est dans l'erreur, lorsque des gens sont dans l'erreur. Pour instruire dans la justice, dans la vérité de la parole de Dieu, afin que l'homme de Dieu, l'homme, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et il y a 2 Pierre 1, verset 16, 17, 18, 19, que vous pourrez lire, mais c'est un très beau passage. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre l'avait vu, le Seigneur. Pierre, il dit, je ne vous raconte pas d'histoire ici. Ce n'est pas une joke. Ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est la vérité. On l'a vu, le Seigneur. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. On parle de Jésus. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne, vous vous rappelez, lors de la transfiguration. Et nous Tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe. La parole de Dieu, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. On est-tu dans l'obscurité? Hein? On est-tu dans l'obscurité? La parole de Dieu, les chrétiens sont des lumières jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Versets 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme, remarquez bien ça, qu'une prophétie a jamais été apportée. Malheur à ceux qui amènent des nouvelles prophéties, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. C'est ce que nous croyons. Maintenant, on va prendre les trois personnes de la Trinité. Je vais faire les deux, Dieu le Père et Dieu le Fils aujourd'hui. Et pas la semaine prochaine, parce que je vais parler du jeûne, mais après ça, Daniel va venir prêcher, puis après ça, il y a les deux autres semaines. On va finir ça en novembre. Mais je vais amener toute la confession de foi de notre Église. Dieu, qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons en un Dieu. Il est le Créateur et il est le souverain de toutes choses. Il n'y a pas personne qui est au-dessus de Dieu. Et c'est pour ça que dans notre foi, c'est Dieu qui a autorité sur nous. C'est Dieu qui nous a choisis avant la fondation du monde pour être ses enfants. Vous dites, c'est pas juste. La justice, c'est que nous étions tous condamnés à mourir et à aller en enfer. La grâce, c'est que Dieu en a choisi. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu existant éternellement. Le Seigneur n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. En trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois personnes-là ont la même nature parfaite et les mêmes attributs. Des attributs, je m'en rappelle dans mes premiers cours chrétiens, hein, l'omniscience de Dieu, ça veut dire qu'il connaît tous, il connaît tout. L'omniprésence, Dieu est partout. L'omnipuissance, Dieu est tout puissant. Donc, les trois personnes ont ces mêmes attributs-là. Et chaque personne de la Trinité est digne de recevoir l'adoration, la confiance et l'obéissance. Et comment est-ce qu'on prouve cela? Pas parce que j'ai fait des études à Sembec, mais parce que la parole de Dieu, elle me confirme ce que je viens de dire. Genèse 1:8. Vous rappelez la création? Dieu a appelé l'étendue ciel. Ainsi, il y a un soir et un matin, et ce fut le second jour. Dieu est le créateur de toutes choses. Et on voit ça au début, dans la Genèse, que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Deutéronome, hein, le livre dans la section des Écritures au début, le Pentateuque. Deutéronome 6, verset 4, qui dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Pour moi qui dis ça, la parole de Dieu. Le psaume 2. Le psaume 2 est complètement consacré à Dieu. Regardez bien ce que David dit. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? Contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les brises avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Hein, c'est un beau psaume. Et encore là, ça nous parle de la souveraineté de Dieu. Le monde aujourd'hui peut bien se moquer de Dieu. Oui, on va rire de nous autres parce qu'on croit en Dieu. Oui, on va dire qu'on est des marionnettes, qu'on est manipulés par un gourou en avant qui vous parle. Mais lui se fait dire. Mais un jour, c'est Dieu qui va rire d'eux autres. Par contre, il y a peut-être de ces personnes-là qui rient aujourd'hui, mais qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et notre tour, à notre tour, ce n'est pas de se moquer d'eux, c'est de parler de Jésus. Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations les disciples. Hein? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du dernier temps, la fin du monde. Quelle parole réconfortante! Jésus, Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher par l'enlèvement ou à la fin des temps. C'est sûr et certain que Dieu est avec nous. Amen. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon le plan de Dieu. Dieu est souverain. Dieu m'a choisi. Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance. Si je vous ai dit tantôt, Dieu était omniscient, ça se peut-tu qu'il t'aille oublié? Ça se peut-tu qu'il t'aille jamais connu avant que tu sois né? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il ne parle pas des païens, là, il parle des chrétiens. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen! Êtes-vous content ce matin d'apprendre ça si vous êtes un enfant de Dieu? Hein? Amen! Gloire à Dieu! Dieu le Père. On croit que Dieu le Père aime le monde. Hein? On va voir le verset tantôt que vous connaissez tous. Que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver les pécheurs et qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. On a célébré ce matin la scène, nous rappelant comment Jésus-Christ, son corps, son sang a coulé pour nous. Et qu'on doit faire ça jusqu'à ce qu'il revienne. Parce qu'après ça, savez-vous, on va être au ciel, puis voir un grand banquet. Puis j'aime ça, les banquets. Le Père a exalté le Fils en mettant toutes choses sous son pouvoir. Et ensemble, Père et Fils, ils ont envoyé le Saint-Esprit. La promesse que Jésus a faite à ses disciples, il dit, « Je vais vous envoyer un consolateur qui vit dans le cœur de chacun de nous qui sommes ses enfants de Dieu. » Si tu n'es pas un enfant de Dieu ce matin, j'espère que la parole va te toucher au point de dire, « Moi aussi, je veux ça. J'en veux. » Comment on prouve ça? Bien, Luc 3, verset 22, qui dit, « Et le Saint-Esprit descendit sur lui, hein, lors de son baptême, une forme corporelle, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel par ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jean 3, 16, « Car Dieu nous a aimés, a aimé le monde. » Dieu a aimé sa création, il ne peut pas l'aimer. Mais Dieu déteste le péché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Philippiens 2,9, Paul dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Qui l'a élevé? Jésus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu notre Père. 1 Pierre 1,21. Qui, par lui, croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. As-tu foi dans ta banque? Non. As-tu foi dans ton compte de banque? Non. As-tu foi dans l'armée? Surtout pas au Canada. Non, on a un beau pays. Hein? Notre foi repose sur Dieu. Et 1 Jean 4,14 nous dit, « Et nous, Jean il parle, il est rendu à la fin de sa vie. Il dit, « Et nous, nous avons vu. » Et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Parlons de Jésus maintenant, Dieu le Fils. Nous croyons que Dieu le Fils est Dieu incarné dans la personne de Jésus le Messie. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Ceux qui disent que les souffrances de Jésus n'étaient pas réelles parce qu'il était Dieu, non, non. Il a souffert comme vous et moi. On aurait souffert. Il a été conçu miraculeusement par l'Esprit Saint. Il est né de la Vierge Marie, si on croit ça. Il a vécu une vie sans péché, si on croit ça. Il a été crucifié. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Maintenant, Jésus règne auprès de Dieu. Il est assis à sa droite. Ça me rappelle le « Je crois en Dieu ». Qui est une vraie confession de foi, là, que je crois en Dieu. Il nous sert de grand souverain sacrificateur et de médiateur auprès de Dieu le Père. Ce n'est pas la Sainte Vierge qui va convaincre Dieu le Père parce qu'on lui a demandé quelque chose. C'est Jésus qui est le médiateur, celui qui est dans le milieu, celui qui est entre deux parties. Celui qui négocie. Hein, médiateur, dans le temps des grèves, ces choses-là, on sait c'est quoi? Jean 1:1, puis Jean 1:14. Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est qui la parole? Jésus. Jésus, c'est la parole. 1:14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Jean qui parle. Jean a connu Jésus. Matthieu 1:22. Étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. On allait vers lui. Il était étonné de ce que Jésus... de ce que Jésus disait? Ésaïe 7,14, « Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Jésus-Christ est Dieu. » 1 Corinthiens 15,3, « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. » C'est Paul qui parle que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Je m'excuse, j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête. Là. Matthieu 1,22, ce n'est pas la bonne référence. pour qu'est-ce que je vous ai dit. Je me suis trompé dans mes notes, ou j'ai mal copié, je ne sais pas. Ou ben non, c'est peut-être une erreur dans nos feuilles. Oui. 22. Ah! C'est Matthieu 22? OK, 23, c'est le même jour. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. C'est ça? Il continue, OK. Excusez-moi, parce que dans ma feuille de confession de foi, là, j'ai sur le site que j'ai ramassé, j'ai Matthieu 1, 22, 23, mais j'ai peut-être manqué un bout de 23. Tu peux-tu le lire, Luc, si tu me donnes un break en même temps? D'une slide, Joanne. Tu peux-tu reculer? Matthieu 1, 22. C'est ça? OK. C'est ça que je vais corriger. Je vais vous rapporter ça la semaine prochaine. OK? Excusez-moi, là. Bon. Paul a dit, quand je vous ai dit, OK, j'ai lu 1 Corinthiens 3. Maintenant, 1 Corinthiens 15 va dire verset 3. Et maintenant, il y a 2 Corinthiens 5, 21 qui dit ceci. « Celui qui n'a point connu de péché, c'est qui? Jésus. » Il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, c'est le Fils, Jésus-Christ. Et on croit aussi qu'il va revenir en personne en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, pour mettre place son royaume terrestre, le millénium. Hein? Hébreux 1, 3 qui dit « Et qui étant le reflet de sa gloire » et l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine de Dieu dans les lieux très hauts. Un peu plus loin, Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Christ n'est pas resté dans la tombe, Christ est ressuscité. Et enfin, Apocalypse 22, verset 12, voici. « Oh, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier. » Je vais conclure ce matin avec ceci. Toute personne, qu'elle en soit consciente ou non, croit quelque chose, croit en quelque chose, et elle agit en fonction de ce qu'elle croit. Et c'est une réflexion qu'on doit s'approprier. Comment vis-tu? Est-ce que tu vis en fonction de ce que tu crois ou de ce que tu dis croire, de ce que la parole de Dieu dit? Ou si tu t'es fait ou proclamé comme un petit Dieu et tu gères la parole de Dieu comme toi, tu l'entends. Tu es en dehors du « nous croyons que ». Nous pensons qu'il est impératif de se demander ce que l'on croit et aussi de vérifier si nos croyances correspondent à la vérité de la parole de Dieu ou à l'erreur. Et lorsqu'on affirme cela, on déclare implicitement qu'il est possible de connaître la vérité et aussi d'exprimer celle-ci d'une manière qui est objective. Et cette façon-là d'exprimer la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur le but de l'existence et la destinée future, est-ce que nous appelons, nous, les chrétiens, une confession de foi? Hier, à l'église où nous étions, le conseil des anciens avec Mathieu, on était dans une église à Emmanuel, boulevard Saint-Charles. Il y avait sur le mur une grande banderole qui disait ceci. « Connaître Dieu pour mieux le faire connaître. » Frères et sœurs, c'est notre obligation de connaître Dieu pour remplir la mission que Jésus nous a demandé d'accomplir, de faire, aller faire de toutes les nations les disciples. La confession de foi, ça va nous permettre d'annoncer avec assurance, d'évangéliser les gens, les âmes perdues qui sont autour de nous. Et on doit apprendre à connaître notre grand Dieu. On doit apprendre à connaître cette confession de foi-là qui nous appartient, qui est fondée directement sur la parole de Dieu. Et c'est notre responsabilité de lire. Et c'est ça l'exhortation que je veux qu'on avoir ce matin avec chacun de vous, qu'on puisse lire, relire notre confession de foi pour qu'on puisse être en mesure de défendre premièrement notre foi et notre foi est attaquée et elle va l'être de plus en plus. Et ensuite de faire connaître ce grand Dieu, ce Sauveur unique, l'Esprit Saint, la Trinité. Amen.